Ce matin, je veux vous amener comme si nous étions avec les apôtres quelques heures avant que Jésus il était en route vers le jardin de Gethsémané. Et il y a quelque chose de grandiose qui s'est passé, c'est que en privé, Jésus a pris ses disciples avec lui, seul à seul. Et il leur ouvre quelque chose qui n'a jamais été, qu'ils l'ont vu, cette intimité qu'il a avec son Père Céleste. Et les disciples autour voyaient et entendaient Jésus parler à son Père. Je parle de cette prière qu'on qualifie de prière sacerdotale, là, dans Jean chapitre 17. Il faut situer bien que Jésus avec les disciples quitte la chambre haute et il va aller en route vers le jardin de Gethsémané. Et Jésus, comme je viens de dire, ouvre cette occasion inouïe où ils entendent pour une première fois Jésus parler ouvertement à son Père qui est dans les cieux. Et donc, j'aimerais que nous lisions ensemble hein, ce qui s'est passé donc, dans Jean chapitre 17, hein, versets 1 à 18. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je l'ai gardé en ton nom, j'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité comme tu m'as envoyé dans le monde. Je les ai aussi envoyés dans le monde. Je voudrais juste faire un bref rappel du contenu de cette requête que Jésus a adressée à son Père dans l'intimité de ses disciples. Mais le sujet que je veux viser aujourd'hui, dans ces requêtes qu'il a adressées à son Père, il y en a un que je retiens spécialement aujourd'hui pour nous, hein, c'est écrit ici au verset 18, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Il s'agit de notre mission. Ça, c'est le sujet de ce matin. Mais ce sujet fait partie des requêtes dans cette prière dans Jean chapitre 17. Donc, Nous allons faire un bref rappel de ces prières, ses contenus, hein, et l'objet de ces prières. Donc ce matin, j'intitulerai ce message « Avez-vous accompli votre mission ?» Avez-vous accompli votre mission ? Et pour cela, je voudrais rappeler rapidement dans le contexte de cette prière, le contexte de ses disciples. Hein, on peut dire des chrétiens. Et le sujet aujourd'hui, c'est notre mission. Donc, parlons de notre mission. Pourquoi évangéliser, d'après ce passage ? Comment évangéliser ? Par les évidences de la Bible et quelles sont les sources de motivation pour l'évangélisation. C'est ce que nous allons voir ce matin. Donc, d'abord, la nécessité de cette requête. Il est défini, le cadre est défini dans Jean 17, verset 11. Je ne suis plus dans le monde, mais ils sont dans le monde. Et ça continue pour nous, c'est la même chose. Jésus n'est plus dans le monde, mais nous sommes dans le monde. L'objet de cette requête, c'est qu'il s'adresse à son Père, il prie pour les disciples qui sont proches de lui, précisément les apôtres, et il prie aussi, au verset 20, pour les futurs croyants qui vont suivre et qui vont croire en lui par le ministère de ses apôtres. Intéressant de voir rapidement les contenus de ces requêtes. Au verset 11, hein, comme nous venons de lire tout à l'heure, il prie son Père pour la protection de ses disciples après son départ. Au verset 11 et verset 21, il prie pour le maintien de leur unité quand il ne sera plus avec eux physiquement. Et il prie pour eux qu'ils expérimentent la joie parfaite en dépit des circonstances. Vous voyez la similarité, c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Dieu désire la joie parfaite en dépit des circonstances dans lesquelles nous vivons. Il prie pour eux la protection divine contre l'influence du malin dans le monde. Et vous pouvez voir un Jean 5, 19 à ce sujet aussi. Et nous voyons aussi au verset 17, il prie l'action sanctifiante de la parole de Dieu dans leur vie par sa mise en pratique. Et il prie pour leur mission de témoin pour qu'ils puissent porter du fruit. Ça, c'est les requêtes de Jésus. Vous savez, c'est quelque chose qui me laisse sans voix. Dans quelques heures, Jésus va aller être crucifié sur la croix. Et dans ses prières, il est sous silence concernant ce qu'il va vivre dans quelques heures. Et tout son intérêt s'est concentré sur les besoins de ses disciples. Quelle leçon grandiose! Quelle leçon grandiose! C'est pas sans besoin qui passe en premier, mais c'est les soucis pour ceux qui laissent. Et pourtant, il va affronter la croix dans quelques heures. C'est étonnant comment il présente ses disciples à son Père. C'est mentionné 8 fois. Si vous avez remarqué dans la lecture, j'ai marqué ce que tu m'as donné, ce que tu m'as donné, ce que tu m'as donné. 8 fois, au verset 2, verset 6, A et B, verset 9, verset 11, verset 12, verset 4. Ce que tu m'as donné. On peut dire comme cela que nous sommes les cadeaux du Père à son Fils. Et le Fils, c'est le don de l'amour de Dieu pour le monde. Vous voyez ? Combien Jésus va exprimer à son Père ce qui rendait les disciples précieux aux yeux de son Père. Ça me touche. Vous savez, dans le monde, nous n'avons pas beaucoup de valeur. On n'attache pas de si grande importance sur ce que nous sommes. Mais aux yeux de Jésus, nous sommes précieux. Aux yeux du Père, nous sommes précieux. Et le savoir suffit, n'est-ce pas? Ce que tu m'as donné. Et vous savez ce que le Père lui a donné? Nous lisons verset 2. Ils ont le don de la vie éternelle. Jean 17, verset 2. Au verset 6, verset 26, ils ont le privilège de connaître Dieu comme Père. Oui, ils ont le droit d'être faits enfants de Dieu, qui est leur Père. Et vous savez, on dit toujours dans l'expression française, tel Père, tel Fils. Ce droit comprend, je dirais, la ressemblance de famille, qui est le fruit de la communion intime avec le Père et le Fils. Et quelque chose dont nous avons besoin, et ce que Jésus nous a laissé avec aussi, c'est qu'ils ont reçu et ont gardé la parole de Dieu. Nous n'avons que ça, chers frères et sœurs. En tant que chrétiens, pour vivre la vie chrétienne, nous avons la communion avec le Père par le Fils et par la parole de Dieu. Et c'est tout pour vivre la vie chrétienne. Ils ont dit ici, verset 8 et verset 6, ils ont reçu et ont gardé la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu a du prix aux yeux des disciples et doit l'être aussi à nos propres yeux. Je m'arrête toujours à cette expression, ce que tu m'as donné. Dieu le Père apprécie que son Fils lui rappelle tout ce que Dieu nous a fait devenir en Christ avant d'adresser ses requêtes en leur faveur. Ça, c'est à retenir. Il parle de ce que tu m'as donné, comment il les décrit aux yeux du Père. Tout simplement parce que ça fait plaisir au Père d'entendre de quelque chose le fruit de l'œuvre de Jésus-Christ que nous sommes. Ce n'est pas dans le but d'influencer Dieu pour qu'il exauce notre prière, mais parce que c'est agréable aux yeux de Dieu d'entendre ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. C'est le mérite de l'œuvre de Jésus-Christ. Donc ce n'est pas pour influencer Dieu qu'il exauce la prière, parce que uniquement Dieu exauce notre prière sur la base du mérite de Jésus-Christ, en tant que notre seul souverain sacrificateur, Hébreux 7, 5 à 27. Ça, c'est les généralités sur cette intimité où les disciples étaient témoins pour une fois de cette intimité dans la prière de la communion du Fils avec son Père. Et quelque chose que j'aimerais que vous regardiez dans ces passages, des expressions où il faut regarder bien tous les petits détails que l'Esprit a inspirés à Jean, qui est l'auteur de cet évangile, les expressions qui décrit la situation des chrétiens face au monde. Je vous ai dit, la prière est dans le contexte du fait que Jésus ne suit plus dans le monde, il dit, mais ils, en parlant de ses disciples, ils sont dans le monde. Donc, cinq expressions que je vois dans ce passage. D'abord, au verset 6, je relis, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Du milieu du monde. Ça, là, nous fait penser à notre rédemption. Pourquoi on peut dire ça? Ce que tu m'as donné, je vous ai dit et répété 8 fois, et cette expression souligne deux réalités. Deux réalités, à savoir, d'où Dieu nous a sortis. Il a dit que tu les préserves du malin. Dans le système du monde, Dieu nous a arrachés du système de Satan, dont il est le patron, pour nous donner à Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, ce que tu m'as donné. Pour nous arracher du monde, il s'agit d'une délivrance de l'esclavage du monde, du péché, de Satan. Et pour cela, il faut payer le prix. Et le prix de la délivrance qu'on appelle la rançon, c'est le sang précieux de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Donc on voit ici, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient arrachés du milieu du monde pour les donner à Jésus-Christ. C'est ce que le Père a fait de nous. Quel miracle, quelle merveille. Donc cela nous fait penser à notre rédemption dans cette prière. Il dit aussi, au verset 11, « Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. » Dans le monde. Cela nous fait penser à notre situation. N'est-ce pas? Rappelez-vous de Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Vous savez, à chaque époque de l'histoire, les croyants sont confrontés à l'esprit du siècle, ce qui émane de la société anti-Dieu. N'est-ce pas? C'est pas nouveau pour nous. Ça a été déjà le cas pour ses disciples de Jésus-Christ. Et plus tard, nous lisons l'apôtre Paul dire « Le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu. » Donc le monde est caractérisé par sa propre sagesse, mais ce qui est frappant, n'a pas connu Dieu. Dans quel sens il faut comprendre qu'ils n'ont pas connu Dieu? Il ne s'agit pas de manque d'informations concernant Dieu, mais d'un choix délibéré avec cette sagesse de tourner le dos à Dieu. Et vous le constatez autour de vous chaque jour. Chaque jour, l'évidence de ces choses. Et les chrétiens sont dans cette situation-là. C'est ça leur quotidien. Notre quotidien. Et vous savez, cet esprit du siècle est véhiculé par la culture ambiante qui est relayée par différents moyens de communication comme la télévision, les réseaux sociaux, les mobiles, etc. Et qui s'impose à l'enfant de Dieu pour les modeler ou le conformer à cette mode de pensée, à cette valeur, à cette philosophie. Ça, c'est notre situation. Et Jésus a prié déjà, il y a 2000 ans, pour les ses apôtres, mais pour nous, cette prière aussi, à ceux qui croiront par eux. Regardez le verset 14 et 16. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Ils ne sont pas du monde. Ça nous fait penser à notre distinction du monde. Oui, le chrétien n'appartient plus au monde. Il appartient au Fils parce que Dieu nous a arrachés du monde pour donner à son Fils. Et le Fils dit à Père, ce que tu m'as donné. Oui, nous n'appartenons plus au monde. Nous appartenons au Fils et notre citoyenneté est céleste. Oui, c'est notre distinction. Et dans cette prière, au verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Pas ôter du monde. Cela nous fait penser à notre sanctification. Vous savez, le Seigneur connaissait les dangers auxquels les disciples seraient exposés. Cependant, il ne demande pas qu'ils soient enlevés de cette scène de conflit. Et ça a été toujours le cas, jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, pourquoi notre sanctification? Parce que les saints du Nouveau Testament, c'est ce que Dieu a mis à part pour lui-même en les séparant du péché et du monde. Il y a beaucoup de saints ici, que Dieu a mis à part pour lui-même. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous aujourd'hui, en nous séparant du péché et du monde. Oui. Pour terminer, et nous arrivons à notre sujet maintenant, dans cette requête, nous voyons, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, le verset 18. Il s'agit de notre mission. Et c'est le sujet que je veux en parler rapidement ce matin. D'abord, donc, nous ne sommes pas une mission, mais nous avons une grande mission, celle d'évangéliser. Donc, remarquez bien l'ordre de ce que je viens de vous donner dans la prière. D'abord, la sanctification, puis après la mission. Pourquoi? Tout simplement parce que il est question d'être sanctifié avant d'être envoyé. C'est dans la mesure, je dirais, où le vase est propre que le maître peut s'en servir. C'est toujours le principe de la parole de Dieu. Et donc, la question maintenant... Pourquoi évangéliser? Je vais être vraiment vous montrer l'évidence que c'est la Bible qui nous interpelle à le faire. D'abord, pourquoi évangéliser? Parce que c'est un appel d'en haut. Un appel d'en haut. Et c'est un appel qui vient directement de Dieu. C'est l'ordre du Seigneur à ses disciples avant de monter au ciel le jour de l'ascension. Regardez avec moi Matthieu 28, 19. Hein? L'impératif, allez, allez, faites des disciples toutes les nations. Allez, faites des disciples toutes les nations. En Actes 5, 20, allez, annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Luc 10, 3, allez, je vous envoie. Et Matthieu 24, allez dans la vigne. Donc c'est un appel direct de Dieu à son peuple. Donc ici, l'ordre est clair, c'est un impératif, comme je viens de le rappeler. Donc il y a une urgence. Et souvent, on se confine trop dans notre coquille. Et quand on se confine trop dans notre coquille, on finit par s'endormir. Et c'est pour ça cet impératif qui nous secoue. Allez, il faut sortir de là où nous sommes, finir les zones de confort et aller évangéliser. Donc, ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas quelque chose qu'on peut imaginer, c'est un ordre qui vient d'en haut. Mais ce n'est pas seulement qu'un ordre qui vient d'en haut, mais c'est aussi, c'est un appel qui vient d'en bas. Je fais allusion à Luc chapitre 16, versets 19 à 21. Vous pouvez ouvrir votre Bible, donc je veux décrire tout simplement cet appel qui vient d'en bas. Et là, je trouve incroyable, quelqu'un de son vivant ne se souciait pas d'évangéliser. Mais quand il arrivait dans le séjour de mort, c'était trop tard et c'est là qu'il devient un évangéliste. Mais c'est trop tard. C'est une belle leçon pour nous aujourd'hui aussi. Donc, dans Luc 16, versets 19 à 21, il y avait un pauvre nommé Lazare qui a été couvert par des ulcères. Et ce pauvre Lazare mourut. Et nous lisons qu'il fut porté par les gens dans le sein d'Abraham. Et vous savez, dans Luc 16, verset 19, il y avait aussi un homme riche. Et cet homme riche mourut aussi. Et en enfer, il commence à regarder, il est tourmenté en souffrance. Et il voit Abraham. Il ne demande pas de sortir de là où il est. Il ne proteste pas son emprisonnement. Il ne demande pas le terme de son emprisonnement. Et Abraham lui rappelle son passé. Souviens-toi. Souviens-toi. Le riche dit, je te supplie, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Pour que Lazare atteste à ces choses, la véracité de ce qu'il vit dans l'enfer, afin qu'il ne vienne pas aussi dans ce lieu de tourment. Et vous savez qu'est-ce que répond Abraham? Ils ont Moïse et les prophètes. Ils les écoutent. Un appel d'évangélisation de l'enfer. Pour qu'on parle aux vivants, et la réponse est simple, ils ont Moïse, le livre du Pentateuque, ils ont les prophètes, les livres des prophètes, ils ont l'Ancien Testament. Il faut qu'ils les écoutent. Vous voyez, il y a un temps pour toutes choses. Pour le salut, c'est de notre vivant. Après le vivant, c'est trop tard. C'est ce qu'enseigne ce passage. Vous savez, ce n'est pas une parabole. On minimise toujours la véracité de ces saints textes le plus clair qui nous parle du séjour des morts, du Saint d'Abraham et de ces jours en bas où il y a, pendant ce temps-là, les morts qui attendent leur résurrection pour le jugement. Mais ce n'est pas une parabole, c'est une réalité et c'est Jésus qui l'a décrit. Pourquoi ce n'est pas une parabole? Parce que là, on nomme des noms. Si vous lisez toutes les paraboles, jamais on fait mention des noms des personnes dans une parabole. Regardez tout ce que Jésus, relevez-les. Jamais, jamais. Donc, il faut trembler devant ces textes que c'est Jésus qui parle. Et c'est la réalité de ces choses. Et là, c'est un appel d'en bas. Mais ce n'est pas seulement un appel d'en bas, mais c'est un appel qui vient du dedans aussi. Hein, l'apôtre Paul, là, dit en Romains 1, versets 14 et 17, « Je me dois, j'ai un vif désir, je n'ai pas honte de l'Évangile. »
du dedans.
Paul encore qui dit en 1 Corinthiens 9:16, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile, malheur à moi. Et 2 Corinthiens 5:14, l'amour de Christ nous presse. Et Paul, quand il était à Athènes, regardant toutes ces divinités, la ville qui est pleine d'idoles, nous lisons dans Actes 17, 15, 16, Paul se sentait au-dedans de lui, son esprit s'irritait à la vue de cette ville pleine d'idoles. Oui, l'évangélisation, c'est un appel qui vient de dedans, le fardeau que Dieu met dans notre cœur pour les âmes perdues. Comment évangéliser? Je voudrais vous montrer l'évidence de Jésus-Christ à ce sujet, c'est pratique. En Matthieu 9, 35, nous lisons, il parcourait toutes les villes et les villages. En Luc 1, Matthieu 4, 23 jusqu'à chapitre 11, verset 1, Marc chapitre 1, verset 14 jusqu'à 2, verset 2, Marc 4, 33, nous lisons, il allait de ville en ville, de village en village, évangélisant. Aucune ville, aucun village n'échappe. On voit la méthode. Ville en ville, village en village. Notre Seigneur était méthodique dans sa manière de porter l'évangile dans ses lieux. Et ce qui est frappant aussi, Marc 6, 6, il parcourait les villages l'un après l'autre. Et c'est très intéressant parce que tout simplement, ici nous sommes en Galilée et l'auteur est en train de donner dans cette expression les tournées que Jésus, il est passé 3 fois dans cette ville de la Galilée, tout simplement pour préparer le terrain afin que les 12 vont être envoyés pour la mission qu'il va. Donc vous lisez Marc 6, verset 6, à partir du verset 6, et vous savez à partir du verset 7 à 13, il y a l'envoi des disciples. Donc, cette expression résume cette tournée de Jésus en Galilée afin de préparer le terrain pour la venue de ses disciples qui vont évangéliser. Marc 13, 2, Matthieu 13, 2, il allait au bord de la mer et nous lisons, Jésus monta dans une barque et s'assit. Nous lisons en Matthieu 5, sur la montagne, il s'assit. Pourquoi s'asseoir? Parce qu'apparemment, dans l'époque, les rabbins, quand ils vont enseigner, ils s'assoient pour dispenser ses cours, si vous voulez, ses discours. Et donc, c'est ce que fait Jésus dans une barque, aussi il s'assoit. Et je parcours encore les passages dans Jean chapitre 4. Il allait auprès d'un puits face à une femme samaritaine, engageant une conversation. Et ce qui est choquant ici, c'est que les préjugés de l'époque... Il n'est pas permis qu'un homme parle avec une femme en public. Il n'est pas permis qu'un juif parle et communique avec un samaritain. Il n'est pas permis que quelqu'un parle à un étranger. Et Jésus défiait ses préjugés. Il s'assit au bord du puits pour converser avec une femme samaritaine. Et vous lisez dans cette histoire que les juifs et les samaritains n'ont rien à voir l'un entre eux avec une longue histoire. Et ça qui est formidable, Jésus défiait les préjugés, il rencontrait les gens, ils évangélisaient dehors, dans les rues, dans les lieux publics. Et les secondes dira-t-on, ça ne compte pas pour lui parce que la valeur d'une âme est précieuse aux yeux de Jésus. Quelle exemple pour nous. Continuons aussi l'exemple des disciples. Ça, c'est l'exemple de Jésus en personne. Maintenant, l'exemple des disciples. Marc 16, 15. Partout dans le monde, ils évangélisaient. Et notre frère a partagé tout à l'heure, Romains 1, 5, a mené à l'obéissance de la foi tous les païens au nom de Jésus. Acte 5, 42, il ne cessait tous les jours d'annoncer Jésus de maison en maison. Et nous lisons chaque jour, ils étaient dans le temple ou dans les maisons. Ils continuent à enseigner. Et vous savez, le contexte ici, contexte de persécution. Et malgré l'interdiction du Sanhédrin, ils continuent, ces apôtres, à enseigner, à évangéliser sur la bonne nouvelle de la personne de Jésus-Christ. Dans le contexte d'opposition, ils continuent. Acte 8, verset 4, ils allaient ça et là annoncer la parole de Dieu. Hein. Et nous lisons que en Acte 8, 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui s'est passé en Acte 7? Qu'est-ce qui s'était passé en Acte 7? Le martyr des siens. Et tout de suite après, ils continuaient à aller de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle. Quel courage! Et même l'audace des apôtres disant que nous n'allons pas obéir à vous, hein, autorité religieuse. Hein, nous préférons obéir à Dieu qu'obéir à vous, malgré le coût et le sacrifice que ça va leur faire payer. Quel exemple! Nous lisons dans Acte 8, 40, hein, Philippe se trouva dans Azote, hein, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Intéressant de faire un peu de géographie. Vous savez, la ville d'Azote, hein, c'est la même, hein, d'après les chercheurs, les commentateurs bibliques, hein, c'est la même ville qu'Ashdod. Et Ashdod n'est pas autre chose qu'une ancienne capitale philistine. Et vous savez, les Philistins, c'est les ennemis redoutables d'Israël. Et vous voyez, Philippe envoyé dans cette ville pour parler du Seigneur dans une ville païenne. Magnifique le plan de Dieu. Hein? Et je peux continuer, l'apôtre Paul, acte 9, 31, acte 14, 6, il allait dans tous les pays. Marc 16, 20, les apôtres allaient prêcher partout avec hardiesse. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de tous ces exemples-là? Ce qu'on peut retenir tout simplement, ce qui me frappe aussi, ils voulaient être bien à Jérusalem, c'est bien d'être ensemble. Mais Dieu a un plan plus merveilleux que cela. Il a provoqué la persécution pour que les disciples se dispersent. Et nous lisons qu'il n'y avait que les apôtres qui restaient à Jérusalem, mais le reste, ils sont tous partis. Et ils allaient de lieu en lieu, là où ils étaient dispersés. Et ce qui est frappant, vous lisez dans Acte 4, 13, les gens étaient impressionnés parce que ses disciples allaient dans lieu en lieu, mais ils étaient du genre du peuple sans instruction. Gens du peuple sans instruction. Mais bouleverser le monde par leur témoignage. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un institut biblique, avoir un diplôme de maîtrise ou master, hein, pour pouvoir témoigner de Jésus-Christ. Ces exemples, par la puissance de l'Esprit de Dieu, ils équipaient ces hommes et femmes. Ils étaient obligés de partir. Dieu a provoqué la persécution pour que l'évangile se répande. N'est-ce pas? C'est magnifique. Ce sont des illettrés, des dispersés, et c'est ça permis à ce que l'évangile va de Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'à l'extrémité du monde. Ce matin, vous dites, là, ouais, ça m'interpelle ces passages. Jésus lui-même donne l'exemple. Les apôtres lui-même, les disciples donnent l'exemple. Je sais, oui, mais je n'ai pas les dons. Je n'ai pas les dons. Je ne peux pas. Paul dit en 2 Timothée 4, 5, hein, l'évangélisation n'est pas l'affaire exclusive des serviteurs de Dieu, c'est l'affaire de tous les croyants. Même si je n'ai pas le don d'évangéliste, hein, je peux faire l'œuvre d'évangéliste. Vous voyez, on peut se dire, donner l'excuse, je n'ai pas le don, mais vous pouvez faire l'œuvre sans le don. C'est ce qu'ont fait ces gens illettrés. Vous allez témoigner là où ils passaient, et l'évangile là, progresse comme ça. Oui, je dirais plus d'excuses. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait un homme que vous connaissez, nous connaissons, hein, qui ont aussi été appelés par Dieu pour délivrer le peuple hein, du Pharaon, de l'Égypte, Moïse. Et qu'est-ce que disait Moïse? Ah non, je ne peux pas. Ils ne vont pas m'écouter. C'est pas possible. Et je vous rapporte à Exode 4, verset 10 à 12. Hein. Moïse dit à l'Éternel, ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Hein. Si je dis bien ni d'avant-hier, même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Verset 12, va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. C'est la même chose pour nous. Ça nous enlève les excuses. Dieu nous envoie et il pourvoit à ce dont nous avons besoin. À lui aussi. Il enlève toutes nos excuses. Et à chaque fois, je sens quelque chose de plus fort encore, en acte 20-26, hein, nous avons une dette envers ce monde et nous leur devons l'évangile. Je lis acte 20-26, hein, je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. C'est Paul qui a convoqué les anciens d'Éphèse pour être à Milet avant qu'ils quittent pour aller vers Jérusalem. Et il leur a averti que je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Et il lavait les mains. Je suis pur du sang de vous tous. J'ai fait tout ce qu'il faut. Est-ce que nous pouvons dire de telles choses? J'ai accompli tout ce que je dois en évangélisant autour de moi, là où Dieu me place. Est-ce que je suis pur du sang de mon collègue, de mon ami, de mon voisin? Est-ce que je suis pur du sang de ces personnes? Oui, nous avons une dette envers ce monde. Nous leur devons l'évangile. Si le Seigneur revient aujourd'hui, est-ce que ma dette, votre dette, serait payée? Grande question. Parce que nous devrions apprendre, comme le Seigneur voit les âmes, la valeur d'une âme. Matthieu 18, verset 11. À 14. Ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qui se perde un seul de ses petits. Hors de question d'en perdre une. Est-ce que nous connaissons la valeur d'une âme comme Dieu le voit aussi? Et c'est ça qui doit nous pousser à avoir ce fardeau et cette dette dans notre cœur que nous leur devons l'évangile. Oui! C'est bien un homme, mais il faut une source de motivation. Et quelle est la source de motivation hein, que la parole de Dieu nous donne? Je résume par deux impératifs. Allez et travaillez. Allez et travaillez. Donc vous l'avez, j'ai mis là, vous pouvez lire Jean 9, 4. La nuit vient où personne ne peut travailler. C'est le jour qu'il faut travailler. Pour annoncer l'évangile. La nuit, c'est trop tard. Matthieu 21, 28, va travailler aujourd'hui dans ma vigne, va travailler. 1 Corinthiens 16, 10, il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Colossiens 29, je travaille en combattant. Et vous savez, le mot travailler, c'est fort en grec ici. C'est le mot peine, avec peine. Peine. Donc, ça demande des efforts. Ça demande des efforts. Ça fait coûter des prix. Ça engage de l'énergie, ça engage notre force, ça engage nos biens, ça engage plein de choses. Et donc ça, en combattant, nous travaillons avec Dieu, 2 Corinthiens 6, 1, 1 Timothée 4, 10, nous travaillons et nous combattons. Avez-vous remarqué toujours le travail avec le combat? Il y a un ennemi. C'est pour ça qu'on peine. Mais ça vaut la peine, ce combat. Oh, pardon. J'ai travaillé, dit Paul, plus que tous. 1 Corinthiens 15, 58. Travaillons de mieux en mieux. Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Colossiens 4, 11, pour terminer. Ceux qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. Oui, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Ce sont évidents, n'est-ce pas? L'excuse, on n'a pas. On vient de le voir. Alors, chers frères et sœurs, cette église, Je sais qu'il y en a ceux qui le font déjà d'une manière personnelle, là où Dieu les place. Continuez. Mettons-nous à l'œuvre, bougeons-nous tout de suite.